Chapitre 5. La malheureuse première victime de M. Guzzi s'exprima en ces termes. Il est un lieu généralement ignoré, le plus extraordinaire sans doute qui soit au monde. Les gens qui habitent la sauvage campagne de Belgrade l'appellent tantôt Sélène, tantôt la ville vampire, mais les vampires entre eux la désignent sous le nom de sépulcre ou du collège. Ce lieu est ordinairement invisible aux yeux des mortels. Certains l'ont vu cependant, mais il semblerait que chacun de ceux-là s'est trouvé en présence d'une image différente, tant les rapports à ce sujet sont divers et même contraires. Les uns parlent en effet d'une grande ville de jaspe noir, ayant des rues et des palais comme les autres villes, mais tout cela en deuil et enveloppé d'une éternelle obscurité. D'autres ont entrevu d'immenses amphithéâtres couverts de dômes comme les mosquées et lançant vers le ciel des minarets plus nombreux que les pins dans la forêt de Dinawar. D'autres encore un cirque, un seul, aux proportions colossales et environné d'un triple rang de cloîtres, dont les arcades en marbre blanc fuient éclairées par un crépuscule lunaire qui jamais n'admet ni le jour ni la nuit. Et là sont rangés, dans un ordre mystérieux, les demeures ou les sépulcres de ce peuple prodigieux, que la colère de Dieu attache au flanc de notre terre, et dont les fils, moitié démons, moitié fantômes, à la fois vivants et décédés, sont incapables de se reproduire, mais privés aussi du bienfait de nourrir. Ils ont des femmes, pourtant, qui sont les goules, nommées aussi oupires. Quelques-unes, dit-on, se sont assises sur des trônes et ont épouvanté l'histoire. À l'exemple de ces hommes de fer qui opprimaient la race campagne au Moyen-Âge et qui, vaincus, se réfugiaient dans leur forteresse imprenable, ils ont cet abri sinistre et splendide, cette citadelle, ce lieu d'asile inviolable comme les tombeaux. Aussi, chaque fois qu'un vampire est frappé profondément et d'une façon qui se dirait mortel en parlant d'un membre de la race humaine, ils se dirigent vers le sépulcre. Leur existence, en effet, pour subir des crises qui ne sont jamais la mort, mais qui ressemblent à l'anéantissement. On en a trouvé, sur divers points du globe, réduits à l'état de cadavres, quoique leur chair restât fraîche et que le mécanisme qui leur sert de cœur continuât de sécréter une liqueur chaude et vermeille. Et en cet état, ils sont à la merci du premier venu. On peut les charger de chaînes et les murer. Aucun mouvement ne leur est permis pour se défendre, jusqu'à ce que le hasard amène auprès d'eux le prêtre maudit qui détient la clé unique à l'aide de laquelle le rouage de leur vie apparente peut être remonté. Pour ce faire, le prêtre introduit la clé dans le trou qu'ils ont tous au côté gauche de la poitrine et il tourne. M. Guzzi est précisément dans cette position. Il a un impérieux besoin d'être remonté. Et à mesure que les heures vont s'écouler désormais, il va subir un affaiblissement graduel et assez rapide jusqu'à ce qu'on lui donne la quantité de tours de clé qui lui est réservée. Aussi est-il en route vers le sépulcre. Seulement, le désir passionné qu'il a de me récupérer, moi qui suis son lien, sa synovie, s'il m'est permis de répéter ce mot scientifique que j'ai appris de lui-même, le retient encore aux environs de nous. Et comme il ne sent pas encore sa santé trop mauvaise, il ne se presse pas et guette un instant favorable pour m'escamoter par force ou par adresse. Rapprochez-vous de moi, je vous prie. « Car voici le boyard qui monte et l'on n'aperçoit presque plus la lueur de M. Guzzi. Soyez sûr que dès qu'il pourra s'approcher de nous sans s'en être aperçu, il se glissera dans le corps de l'un de nos drameurs. Nous allons, nous aussi, au sépulcre. Soyez tranquille, cela ne nous allongera pas considérablement, c'est presque notre chemin. Je sais par cœur les détours du funèbre hôpital. » Nous pénétrerons jusqu'à la cellule privative de M. Guzzi et... Ah, mais on n'aperçoit plus du tout la lueur verte, attention !» Et quoi? Demandèrent à la fois tous nos voyageurs dont la curiosité était vivement excitée. Qu'alliez-vous ajouter? Chut! Fit l'ancienne Polly, qui mit un doigt sur ses lèvres. Écoutez! Un clapotis suspect agitait l'eau autour du bateau, dont le sillage s'éclairait d'une pâle lumière. Oh, dites-nous la chose à l'oreille, supplia notre Anna. L'ancienne Polly consentit. Oh, elle était vraiment bonne fille, quoiqu'elle n'en eût pas l'air, sous les traits de M. Goetz. Chacun s'approcha tour à tour et reçut sa confidence murmurée. Excellent! S'écrièrent tous nos voyageurs. Ah, voilà une idée qui vaut de l'or. Vous souvenez-vous de l'éclat de rire qu'avait entendu notre Anna au débarcadère des Bumpies le soir de son arrivée à Rotterdam? Eh bien, quelque chose de semblable grinça dans l'air et au même instant, un des rameurs fit un brusque haut-le-corps. Attention! Ordonna Alex Poli. L'ennemi est dans la place. Vous n'avez qu'un moyen de me garder, et ce que je vous dis là vous donne la mesure de ma bonne foi. Placez-moi de nouveau dans le cercueil de fer et asseyez-vous dessus. On n'eût pas plutôt obéi à cette loyale suggestion que le rameur possédé fit un autre mouvement en poussant un grand soupir. En même temps, on entendit comme le bruit d'un corps qui tombe dans l'eau. Monsieur Gulzy, voyant le peu de succès de son stratagème, s'en allait comme il était venu. Le reste de la nuit fut tranquille. Il faisait jour quand ils passèrent à Düsseldorf. Notre Anna chargea Mary Bones d'aller jusque chez un marchand d'instruments de musique et d'y acheter un luth qui servit, malgré la circonstance, à charmer la monotonie du trajet. Monsieur Gutsy semblait avoir disparu. On put rouvrir le cercueil de fer pour donner de l'air à l'infortuné Polly. À Cologne, on quitta le Rhin pour la route de terre. Une chaise de voyage fut louée. On traversa la Westphalie, la Hesse, une partie de la Bavière, et l'on s'embarqua de nouveau à Ratisbonne, mais cette fois sur le Danube. Aucun incident ne marqua le voyage de Ratisbonne à Linz, de Linz à Vienne, de Vienne à l'antique cité magyare d'Offen, que nous appelons Bouda, et de Bouda aux plaines de la Basse Hongrie. Ce fut un matin, au premier rayon du soleil, que notre Anna et ses compagnons aperçurent dans cette gloire étincelante qui est la lumière du ciel oriental, les tours trapues de Peterwardein avant de découvrir les profils enchantés de Belgrade. La vue se perdait dans ces riantes campagnes, tout embaumées par le maïs en fleurs, au milieu desquelles le Danube passe, semblable à une mer. Depuis Vienne, aucun signe n'avait dénoncé la présence de M. Goetz, mais l'ancienne Pauline avait cessé de dire « Il est là ». Et en effet, aux dernières heures du voyage, on recommença de l'apercevoir sur l'eau, toujours flottant, les pieds en avant et enveloppé d'une bourre de brouillard pâle. Mais il était incomparablement plus petit et si maigre. Et la brume livide qui l'entourait oscillait comme si elle eût été prête à s'évanouir. À quelque distance de Belgrade, M. Gulzy se rapprocha du bord et prit terre parmi les roseaux. Vous eussiez dit un transparent flocon de fumée. Il n'en peut plus, l'abominable coquin, dit l'ancienne Polly, qui se frotta les mains de bon cœur. C'était sur la rive chrétienne du Danube que M. Gulzy avait pris terre, non loin de Semlin, dans le banat de Temesvar. On le vit encore un instant au-delà des roseaux, puis il se perdit dans la haute verdure d'un champ de maïs. Abordons! Ordonna Polly, qui était désormais le chef de l'expédition. La barque s'approcha aussitôt de la rive. On descendit sur la berge, et Polly, prenant la tête de la caravane, se dirigea aussitôt vers la petite ville de Semlin, qui est la première après la frontière turque. « Maintenant, dit-elle tout en marchant avec rapidité, que mon infâme séducteur est réduit à la dernière extrémité et couché déjà sans doute dans son auge de marbre, car le sépulcre est plus près de vous que vous ne le pensez. Maintenant que nous n'avons plus à craindre son espionnage, je puis vous fournir les suprêmes explications. Nous sommes arrivés au terme de notre course. Si l'heure était propice, nous verrions d'ici l'atmosphère spéciale qui entoure et voile Sélène, la ville morte. Mais il est trop matin, j'en suis bien aise, car il nous faut le temps de faire nos préparatifs. Vous savez que les vampires partagent le jour en 24 parties égales et que leur cadran, par conséquent, 24 heures. À la 23e heure, c'est-à-dire à 11 heures avant midi, la miséricorde de Dieu a permis que leur puissance eût un temps d'arrêt de 60 minutes, montre à la main. C'est là leur grand secret, et je m'expose en le révélant au plus abominable supplice. Mais je suis prêt à tout pour assurer ma vengeance. Il est aux environs de 8 heures, nous avons donc 3 heures devant nous pour achever à Semlin du charbon, un réchaud, des flacons de sel anglais et un paquet de bougies. Ne m'interrogez pas. Vous verrez par vous-même l'utilité de ces divers objets. Ah, il nous faut aussi un chirurgien habile. Oui, j'ai notre affaire. Monsieur Magnus Sigsly, le praticien le plus instruit, a 10 lieues à la ronde et qui ne demandera pas mieux que de nous suivre, car il est enragé contre les vampires. Malheureusement, je ne peux pas traiter cette affaire-là moi-même. Et pourquoi ? Demanda notre Anna. Parce que, demoiselle, M. Gutsy lui a bu 2 jeunes personnes charmantes qu'il adorait et qui étaient toute sa famille. Or, comme je porte la figure de M. Gutsy, le docteur Magnus ne manquerait pas de me reconnaître et vous sentez que je ne lui inspirerais pas confiance. » Elle se détourna, incapable de dissimuler sa répugnance, et murmura. « Malheureuse, est-ce que vous avez goûté au sang de ces pauvres filles ?»« Demoiselle, répliqua Polly en baissant les yeux dans notre état, on ne fait pas ce qu'on veut. » « Et trouviez-vous cela bon ?» demanda Edward Barton, curieux comme tous les marins. Pour la première fois, peut-être, elle pensa à son fiancé avec orgueil. Certes, William Ratcliffe ne serait pas permis une question aussi déplacée. Semlin, qui est l'ancien château de Malavilla, si souvent pris, perdu et repris par les infidèles au Moyen-Âge, garde encore les restes de la forteresse bâtie par Jean Uniade. Nos compagnons y achetèrent les divers objets qui leur étaient indispensables, et notre Anna eut l'idée de se munir d'un dessinateur. Elle songeait à tout. Il est fâcheux que la photographie ne fût pas encore inventée. Le chirurgien esclavon Magnus Iselli demeurait auprès de l'école israélite, et notre Anna entra seule dans sa maison, pendant que Ned Barton, Jack, Mary et aussi la malheureuse Polly se livraient aux soins vulgaires de prendre leur repas du matin. Le docteur Magnus était encore un jeune homme, quoiqu'il eût les cheveux tout blancs. Sa figure ravagée par la douleur racontait, pour ainsi dire, la déplorable histoire de ses 2 filles. Au premier mot qu'elle prononça, et dès qu'il eut compris qu'il s'agissait de combattre les vampires, il saisit sa trousse et la brandit avec tout l'enthousiasme que donne l'espoir de la vengeance. Selon l'avis de Polly, elle l'engagea à prendre aussi une de ses larges cuillères de fer destinées à servir le potage dans les maisons pauvres, mais dont on aiguisa les bords. L'usage de cet instrument vous sera révélé en temps et lieu. Il est bon de constater que le nombre de jeunes filles dévorées par les vampires aux environs immédiats de leur couvent est beaucoup moins considérable qu'on ne pourrait l'imaginer. Pour ne point trop soulever le pays, les vampires ont arrêté entre eux que dans un périmètre de 15 lieues, ils ne doivent commettre aucun dégât. Monsieur Gulzy avait donc transgressé le pacte en assouvissant sa soif au détriment d'un habitant de Selin, ville prohibée, ainsi que Peter Vardain et Belgrade. En conséquence, de peur d'être réprimandé par les siens, il n'avait pas osé enrôler les deux jeunes demoiselles Sejli parmi ses esclaves, et ayant préparé leurs cadavres, il en avait fait de simples objets d'art. Quand notre Anna revint vers ses compagnons, elle trouva Polly enfermé de nouveau dans le cercueil de fer, précaution doublement utile. D'abord pour que le chirurgien esclavon ne reconnût point en effet Mademoiselle Monsieur Guernsey. Ensuite, pour épargner toute tentation de fuite ou de trahison à l'infortunée fille, dont le repentir semblait sincère, il est vrai, mais qui devait avoir pris en définitive parmi ses anciens maîtres de bien funestes habitudes. On partit à 10 heures sonnant, la 22e heure aux horloges de sépulcre. Il faisait un temps radieux. C'est ici le doux climat d'Italie. Le degré de latitude qui touche Semlin passe entre Venise et Florence. Nos voyageurs allaient silencieux et graves au travers de champs de mille et de maïs dont les clôtures étaient faites de lauriers roses. Elle marchait la première, suivie par Great Jack et Mary Bones qui portaient le cercueil. Edward Barton, esquire, chargé du sac de charbon, du fourneau et du paquet de bougies, venait ensuite. La marche était fermée par M. Magnus, dont le chagrin ralentissait les pas. Ah, ne croyez pas que j'ai oublié le peintre. Non, il flânait à droite et à gauche avec l'insouciance qui est l'apanage des artistes. Ordinairement, les phénomènes surnaturels se produisent aux environs de minuit et à la faveur de l'obscurité la plus complète. C'est à cela, Milady et vous, gentlemen, je vous prie de me permettre cette observation que le présent épisode, rigoureusement historique, présente un remarquable caractère d'originalité. On était au milieu du jour et le soleil dardait sur la nature ses plus éblouissants rayons. Pas d'escamotage possible. À 3/4 de lieue de Semlin, dans la direction de Peter Vardain, le paysage commença très brusquement à changer d'aspect. On ne vit plus ni laurier rose, ni cytise, ni seringa. La grasse verdure des maïs en herbe disparut. Le sol, tout à l'heure si riche, prit une teinte terne, comme s'il fût tombé récemment une averse de cendres. En même temps, le bleu du ciel se voila de gris, et quelque chose que la parole ne peut rendre, un écran mélancolique, se mit au-devant du soleil. Ces symptômes allèrent augmentant avec une surprenante rapidité. Au bout de 5 minutes, il sembla à nos voyageurs qu'ils étaient séparés par une distance énorme des objets qui tout à l'heure les environnaient. Ils se serrèrent instinctivement les uns contre les autres, cherchant au ciel le soleil qui s'était caché derrière le mensonge de cette nuit. « Allez toujours !» dit Polly dans le cercueil. Et ils allèrent, les jambes amollies, la tête incertaine, la poitrine oppressée par un poids inconnu. Ils chancelaient et s'entre-heurtaient. Vous eussiez dit qu'une lourde ivresse les avait saisis, ou plutôt que tous à la fois ils avaient été frappés de cécité. Car ce qui les environnait, c'était la nuit complète, impénétrable. « Allez toujours !» dit la voix du cercueil. Ils allèrent. Y a-t-il quelque chose de plus noir encore que la nuit ? Ce quelque chose tomba autour d'eux, froid comme un drap mortuaire. Depuis longtemps, Tout bruit d'extérieur avait pris fin. La nature ne respirait plus. La voix du cercueil dit au milieu de ce silence sans nom « Arrêtez-vous !» Ils obéirent et tout aussitôt, auprès d'eux, parmi eux, allais-je dire, tant le son les enveloppa étroitement, une cloche puissante mais limpide comme une note d'harmonica tinta lentement la 23e heure. Au 23e coup, les ténèbres se déchirèrent et le sépulcre apparut. Nos compagnons étaient au centre même de la ville vampire. Cette ville superbe, sous la malédiction de Dieu, est appelée Sélène, qui est le nom grec de la lune. On sait que, parmi les auteurs, il en est qui assignent aux vampires la lune pour patrie. Ici, dans la ville décédée qui environnait nos amis, tout manquait, la vie, la couleur et le mouvement. C'était une splendeur spectrale qui s'imposait à l'esprit, dans le silence, par les merveilles d'un décor inouï dont rien ne saurait dire les mélancoliques richesses. Commençons par l'édifice central, situé au milieu d'une vaste place circulaire, et figurez-vous une rotonde immense où les ordres de l'architecture antique s'amoncelaient l'un au-dessus de l'autre, selon de sauvages mais savantes fantaisies, mariés aux audaces les plus étranges de l'archaïsme assyrien, du rêve chinois et du caprice hindou. C'était un temple, une tour, une babel gigantesque, bâtie en porphyre pâle, teintée très délicatement de cette nuance indécise qu'on appelle vert d'eau. De grands blocs de cette pierre, terne et à la fois translucide comme l'ambre, se reliaient entre eux par d'étroites soudures de marbre noir. La première ordonnance, qui formait péristyle au-dessus du perron circulaire de 13 marches, était composée de colonnes doriques, renflées comme celles du temple de Paestum, mais dans une proportion beaucoup plus large et qui produisait un sentiment de cyclopéenne solidité. Entre les colonnes apparaissaient des fenêtres mauresques au cintre violemment outrepassé. La seconde ordonnance était ionique, autant qu'on peut employer ces désignations, réservée à l'art pur pour caractériser des formules exagérées jusqu'à la barbarie. Elle laissait voir des fenêtres tréflées. La troisième cannelait ses colonnes corinthiennes au-devant des murailles qui rentraient percées d'ogives écrasées. La quatrième, composite mais fleurie de 1000 ornements étrangers à la règle, abritait des fenêtres en forme d'étoiles. La cinquième, enfin, qui soutenait la toiture en dôme plate comme une patère renversée et couronnée par un autre beaucoup plus petit d'où s'élançait une gerbe de flammes, ne pouvait accepter aucun nom technique. C'était une efflorescence de colonnes nettes, de nervures, un jaillissement de lianes nacrées, jouant avec tous les styles, mentant à tous les préceptes et défiant les impossibilités de la féerie. Mais ce qui donnait le caractère à l'ensemble de cette colossale chapelle, en même temps grandiose et frivole, magnifique mais triste jusqu'à navrer, c'était la saillie démesurée des chapiteaux et de leurs entablements. Le dorique évasait ses frises et ses corniches, l'ionique enflait et prolongeait ses volutes, le corinthien et le composite déroulaient leurs feuilles d'acanthe et enfin l'ordre sans nom échevelait ses végétations de telle sorte que le tout formait une échelle d'abris large et profond disposés en parasol qui donnait à l'ensemble les profils d'une pagode. Sous le péristyle, entre chaque paire de colonnes, il y avait un tigre de porphyre accroupi, la griffe sur le cœur déchirant d'une jeune fille couchée. Et tout autour du perron, en dehors, 24 piédestaux se rangeaient, supportant aussi des statues de jeunes filles, toutes admirablement belles, mais toutes attaquées et condamnées par l'outrage d'un invisible ennemi. Ces statues portaient une large place circulaire qui complétait le cœur de la rosace et sur laquelle s'ouvrait le six square ou rue composant la ville vampire. Chacun de ces quartiers semblait énorme, prolongeant à perte de vue ces palais innombrables dont les perspectives se perdaient dans une brume d'opale. Ils étaient tous différents, mais dessinés selon de savantes analogies qui procuraient à l'œil la sensation d'un parallélisme harmonieux. Toutes ces livides magnificences appartenaient à la mort. Pas un mouvement, pas un bruit, rien ne respirait. L'éternel sommeil planait jusque dans l'air où ne glissait aucun souffle. Et ce qui frappait surtout, c'était la grandeur de cette nécropole dont nulle parole ne saurait exprimer la terrible solitude. Ici, rien, quoique la main de l'homme apparût si puissamment dans ce gigantesque amas de merveilles architecturales. Rien, ni personne, pas une ombre le long de ces blanches perspectives, ni sous ces colonnades qui de tous côtés fuyaient vers les lointains. Les fleurs pâlies de tous ces parterres dormaient sur leurs tiges, qu'aucun balancement n'agitait. Il n'y avait pas jusqu'aux herbes jaillissantes des fontaines qui ne fussent figées en l'air et suspendues par l'enchantement d'un mystérieux sommeil. Vous savez que la monotonie, découragement de la pensée, élargit tout, même l'immensité. Le crépuscule, limpide et froid comme un regard de lune, frappait de tous côtés à la fois la symétrie cohue de ces monuments, tous bâtis de la même pierre, demi-transparente et incolore. Elle ne leur faisait point d'ombre. Et à travers ces majestés du silence et de la mort, une idée de réveil se glissait. Il y avait dans la débauche de ces styles, dans la sauvage promiscuité de ces arts, une saveur d'orgie. L'orgie dormait. Que devait être cette Babylone des sépulcres à l'heure où l'orgie allait s'éveiller? Les sons de la cloche de cristal vibrèrent longtemps dans l'atmosphère muette. Nos voyageurs restaient frappés d'étonnement. Pendant que notre Anna essayait en vain de mesurer ces effrayantes merveilles, Mary Bonne enfilait ses interjections celtiques et Great Jack sondait la profondeur des perspectives dans le vague espoir d'y découvrir l'enseigne d'une taverne. Le peintre avait saisi ses crayons, le docteur Magnus, pauvre père, comptait d'un œil mouillé les statues de jeunes filles. « Allons, allons, » dit Polly Bird dans le cercueil, « il ne s'agit pas de s'amuser aux bagatelles de la porte. Nous n'avons bien juste que le temps, marchons. Monsieur Guzzi demeure dans le quartier du Serpent. Allez, en avant. » À l'entrée de chaque square, un piédestal supportait l'image de l'animal qui donnait son nom au quartier. Mary Bones reprit la tête de la troupe. Ayant trouvé la statue du serpent, il s'engagea entre les deux files de mausolées qu'elle séparait. À partir de l'entrée, le square allait s'élargissant. Ce fut ici que la notion d'immensité envahit la pensée de notre Anna, qui voyait rayonner de toutes parts des rues greffées sur d'autres rues, tandis que la voie principale plongeait dans de vertigineuses profondeurs. Chaque tableau, vu de près, était un monument considérable, quelques-uns appartenant sans doute à des membres de la nobilité vampirale, avaient les proportions d'un palais de roi, et il y en avait des centaines, il y en avait des milliers. Chaque mausolée portait un nom inscrit en lettres noires au-dessus de son entrée principale. La plupart de ces noms étaient inconnus, mais il s'en trouvait quelques-uns parmi eux, dont la présence en ce lieu eût expliqué bien des énigmes posées par l'histoire des âges écoulés et aussi par celle du temps présent. Des noms d'avares maudits, de ceux-là dont la richesse scandaleuse est la misère de tout un peuple, des noms de courtisanes, ruines obscènes de mœurs et des patrimoines, de noms aussi de cela que la poésie imbécile et l'art esclave glorifient sous le titre de conquérants, parce qu'ils ont écrasé la faiblesse sous la forme et forcé et cimenté leur atroce renommée avec des larmes, de la honte et du sang. Plus d'une fois, en passant devant quelqu'un de ces temples fastueux où dormait un illustre fléau de l'humanité, notre Anna a voulu s'approcher, mais la voix de Polybirde, qui s'impatientait et tremblait d'épouvante au fond du cercueil, criait alors « Attends-nous ! Il y va de la vie et nous n'avons que le temps !» On pressait le pas, mais la route s'allongeait sans cesse. Les rues succédaient aux rues, les tombeaux aux tombeaux, et on allait toujours. Pas une créature vivante ne fut rencontrée dans cet interminable trajet. Enfin, Polly, qui reconnaissait son chemin à travers les trous du cercueil, dit tout à coup « Nous arrivons. Oh, tenez-moi bien, car j'ai beau haïr mon maître. Son cœur m'attire comme l'aimant appelle le fer, et je fais malgré moi des efforts pour me précipiter en lui. » On entendait en effet à l'intérieur de la bière les soubresauts de l'infortuné qui se meurtrissait les côtes contre le paroi de fer. « Halte ! » dit-elle enfin. « Nous sommes arrivés. C'est ici. » M. Goetzy n'étant ni roi, ni dictateur, ni tribun, ni philosophe humanitaire, ni fondateur de crédit immobilier, ni baron Iscariote, ni baron Frinet, ne pouvait prétendre à faire partie de l'aristocratie des vampires. C'était un simple docteur, et encore, il n'exerçait pas la médecine. Aussi n'avait-il qu'un tombeau très mesquin, et qui inspirait presque de la compassion, si on le comparait aux sépulcres patriciennes. C'était une pauvre chapelle de style grec barbare, à peine plus grande que Saint-Paul de Londres, et dont l'architecture un peu parcimonieuse ne comportait pas au-delà de 400 ou 500 colonnes. Elle était humiliée d'un côté par le mausolée d'un premier ministre prussien et de l'autre écrasée par la cathédrale d'une vieille coquine française dont le métier était, est et sera de boire à Paris le sang des imbéciles, fils de croisés ou fils de vilains, sans préférence aucune, pourvu qu'il y ait de l'or dans les veines de ces diverses jocrisses. Et au centre de la façade, sur une table de jaspe noir, le nom de M. Goetzy ressortait en lettres vert d'eau, faiblement lumineuses et ainsi figées, Guéoté. Notre Anna regretta bien de n'avoir pas sous la main William Radcliffe, qui était fort en grec comme un turc. Elle dut s'adresser au chirurgien Magnus, qui lui expliqua, malgré sa douleur, que ce nom semblait formé de deux racines distinctes dont l'une déclinait le substantif « terre »,« gai », tandis que l'autre conjuguait le verbe « bouillir »,« rotein ». « Volcan !» s'écria notre Anna. « Oh, mais c'est bien un nom de fléau !» Elle était fixée. William Radcliffe, consulté plus tard, trouva le nom boiteux et mal bâti. « Ouvrez !» ordonnait cependant Polly, qui se démenait dans le cercueil. « Entrez ! Une simple minute de retard peut vous exposer au plus affreux malheur. » On franchit le perron et le péristyle. Le grande porte n'était pas fermée à clé. On entra. L'intérieur du tombeau présentait une vaste nef entourée d'un cloître régnant au-dessus duquel couraient deux étages de galeries, le tout coiffé d'une coupole byzantine. Les murs, les pilastres, la voûte, tout était fait de cette pierre ambrée que notre Anna appelait lunaire et qui était semi-transparente. Au-devant des colonnes, un rang de statues très rapprochées l'une de l'autre et représentant toutes des jeunes filles, faisait cercle autour d'une conque de porphyre qui tenait le centre exact de la nef. Ces jeunes filles étendaient vers la conque leurs bras mollement arrondis qui portaient une guirlande sans fin. Au-devant encore, un rang de trépieds ninivites soutenait des bassins d'albâtre où brûlait une liqueur inconnue si pâle que la flamme de l'esprit divin semblait vermeille auprès d'elle. Dans la conque centrale, M. Gugsy était couché sur le dos avec ses deux bras collés à ses flancs. Il était réduit à rien, ce misérable, décharné, défait, ridé, comme un parchemin humide qu'on aurait séché au soleil. « Oh, mon cher maître !» s'écria Polly, qui se livrait à d'extravagantes contorsions dans sa boîte de fer. « Oh, s'il n'était pas prisonnière, avec quelle joie j'irais à votre secours !» Mais elle ajouta, sans reprendre haleine, « Allons, vous autres, pas de paresse, arrachez-lui le cœur, sans trop le faire souffrir. » Je vous demande ici la permission d'employer un mot tout à fait choquant. Il est nécessité par la circonstance. Rien ne pue comme un vampire qui s'est mis à son aise dans la liberté du chez-soi. Malgré les nombreuses cassolettes qui brûlaient, M. Gugsy, d'ailleurs sérieusement incommodé, exhalait une odeur si malignement fétide que nos compagnons eussent risqué de mourir par asphyxie sans les flacons de sels anglais achetés à Semelin. Voilà pourquoi la baronne Frinet fait la fortune de tant de parfumeurs. Le docteur Magnus saisit sa trousse, mais sa main tremblait lamentablement, et vous ne comprendrez la raison quand je vous aurai dit que le malheureux père avait reconnu ses deux filles parmi les statues. « Allons, allons !» répétait Polly. « Chaque minute vaut un siècle. Extirpez le cœur de mon infortuné patron avec adresse et douceur. » Ma foi, Mary Bones n'était qu'un Irlandais, mais aucune besogne ne l'effrayait. Il arracha la trousse des mains de M. Magnus et s'écria « Quel diable m'étouffe si je ne tire pas comme il faut de cette opération-là. J'ai été garçon boucher à Galway en tout bien tout honneur. » Va, mon garçon, fit la voix du cercueil, travaille ferme, mais lui fais pas de mal. Mary Bones retroussa ses manches. Notre Anna, solennellement émue, s'était mise dans une position commode pour bien voir. Edward Barton et Grey Jack veillaient sur le cercueil qui menaçait à chaque instant de s'ouvrir. Le docteur Zigley restait auprès de Mary Bones pour diriger au moins l'opération par ses conseils. Le jeune peintre esclavon, assis sur son pliant, jetait un croquis. Oh, je serais naturellement embarrassé pour décrire en termes techniques le travail chirurgical qui fut accompli. Peut-être aussi cela sortirait des convenances. Qu'il vous suffit de savoir que M. Gugsy garda ses yeux ouverts et fixes tout le temps de l'opération. Sa figure resta immobile, ainsi que son corps réduit en état de maigreur pitoyable. « Oh, mais si on lui avait seulement donné 24 heures, disait Polly, il serait gras et frais, le cher patron. Allez, taillez, taillez à fond. Oh, je lui étais bien attaché. » Quand on écarta la chemise du patient, chacun put voir au côté gauche de sa poitrine et à la hauteur du cœur un petit pertuis rond du diamètre d'un tuyau de plume et d'où le sang vermeil s'écoulait goutte à goutte. Au moment où ce mystérieux mécanisme de la végétation vampirale se montra à découvert, la coupole devint sonore, les murailles, le cloître, les galeries prirent une voix. Ce fut une sorte de musique plaintive et pâle comme la lumière ambiante, comme les marbres de l'édifice, comme des lueurs indécises qui se mouraient dans les cassolettes. Mary Bones joua du scalpel en conscience et éprouva un talent comme boucher. Mais, sous le tranchant de l'acier, pas une larme de sang ne jaillit. Évidemment, il n'y avait de vif que le cœur lui-même. L'enveloppe était morte et sèche. Polly dit
« Attention, attention, s'il vous plaît, ma vie est attachée à celle de mon patron par un filet nerveux qu'il faut couper avant de toucher au cœur. Vous trouverez 11 de ces filets dans le péricarde, un pour chacun de mes concessionnaires. Alors, mon filet à moi est le premier à droite, le voyez-vous ?»«
Je le vois, » répondit Mary Bones, qui le trancha délicatement. L'ancienne Polly a reçu un tel choc que le cercueil de fer sauta sur place. Cependant, le cœur était complètement à nu, plus rouge qu'une cerise et dans un parfait état de fraîcheur. Notre Anna, pressant son flacon sous ses narines, l'examinait curieusement. Jamais elle ne perdait une occasion de s'instruire.
« Le réchaud est-il bien allumé ?» demanda Polly.
« Oui, » répondirent Ned et Jack qui s'étaient chargés de ce soin.
« Alors, adieu, patron, je vous pleurerai longtemps.
Et enlevez !»
Mary Bones prit les mains du docteur Magnus la cuillère de fer qu'on avait aiguisée pour cet objet et la plongeant adroitement sous le cœur, il retira ce viscère intact. Les yeux de M. Gulsey tournèrent ternes. Et la musique monumentale, qui était la vibration des blocs de porphyre, s'enfla comme un grand gémissement.
« Et vite, vite !» s'écria Polly, « grillez, brûlez le cœur de mon séducteur. Mais surtout n'en perdez pas les cendres, car nous en aurons, je crains, grand besoin. Que quelle heure est-il ?»
Notre Anna consulta sa montre qui marquait 12:45.
Tout dépend de notre activité, reprit Polly. La route est longue d'ici jusqu'au square du centre. Il n'y a qu'une seule entrée. Chauffez !
On chauffa. Tout le monde se mit à souffler le charbon dans le fourneau. Et sur ce brasier, on plaça le cœur du vampire qui bientôt pétilla et fuma. La flamme le prit. Il brûlait comme un plum pudding arrosé de rhum. Et pendant cela, le corps de M. Gulsey diminuait dans la conque et ses yeux animés d'un mouvement horrible roulaient, roulaient. La cuillère devint rouge. Mary Bones la tenait à l'aide de sa jaquette mouillée et pliée en quelques doubles. Et les autres soufflaient, excités par la voix du cercueil. Le cœur tomba en charbon. Ce qui restait de M. Gulsey dans la conque était un tout mince résidu de matière transparente, au travers de quoi on distinguait des petites choses mortes. Un perroquet, un chien, une femme chauve, un aubergiste barbu et un garçonnet qui avait un cerceau. La musique livide avait cessé de se faire entendre. La froide flamme des cassolettes expirait. Les statues de jeunes filles, tombant de leurs piédestaux sans bruit, s'étaient couchées dans la poussière de porphyre qui formait le sol, et tout autour de la voûte, le grand coucou noir de l'horloge hollandaise planait en rond, agitant ses ailes silencieuses.
« L'affaire est faite !» dit Polly,
qui redevenait bien tranquille au fond du cercueil.
Oh, j'ai eu un moment de vertige, mais c'est passé. Bon, il s'agit maintenant de sortir d'ici. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du docteur Samuel Hahnemann, qui inventa la doctrine homéopathique.
Bien, quand je me porte bien, je ne crois pas beaucoup à la médecine, mais il est sûr et certain que le meilleur remède contre le vampire, c'est la cendre du vampire.
Prenez 2 ou 3 pincées de sel du patron pour vous en servir à l'occasion et gardez le reste au fond de la cuillère. Quelle heure avons-nous ?
12:45, fut-il répondu.
En avant ! Et jour des jambes, emportez-moi ! Ils sortirent aussitôt du monument, laissant le fourneau désormais inutile et ce qui restait du sac de charbon. Edward Barton et le peintre Sclavon portaient le cercueil de fer parce que Mary Gibbons s'était chargée de protéger la retraite du moyen de la cuillère à potage où étaient restées les cendres du cœur de M. Guernsey. « Non, ne souriez pas, vous allez bientôt voir la puissance extraordinaire de ce médicament. » Quant au docteur Magnus Hesy, le malheureux père, il avait entrepris d'emporter les statues de ses deux filles. Ne pouvant y réussir parce qu'elles étaient trop lourdes, il se rejeta sur le résidu de M. Guernsey et s'en empara pour le piétiner à loisir dans son cabinet et lui faire subir les plus honteux outrages. Elle n'avait pas le courage de blâmer cette vengeance puérile, mais légitime. Ils sortirent. Au dehors, tout était comme précédemment, immobile et muet, mais quelque chose avait changé dans la teinte uniforme des lugubres et splendides perspectives. De même que l'approche de l'aurore éveille déjà la nuit, jetant parmi les ténèbres de mystérieuses lueurs, de même au milieu de ces brèmes énormités, la couleur essayait de naître. Il y avait du rouge un peu dans les profondeurs de l'aurore pallide, et le silence, confusément, murmurait. Nos compagnons allaient à pleine course dans les rues de Sélène, incessamment pressés par les exhortations de Polly, qui, du fond de son cercueil, s'essoufflait à crier comme des jockeys d'Epsom. Et vraiment, on pouvait voir déjà qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Le murmure épandu parmi le silence augmentait. Les lueurs, colorées d'un rouge vague, croissaient en intensité, et le bruit des ailes du grand coucou noir qui planait au-dessus de la caravane en décrivant des cercles commençait à se faire entendre. Au moment où nos amis arrivaient au passage marqué par la statue du serpent, cet animal de porphyre, magnifique en ses proportions, se prit à onduler avec lenteur, en même temps que ses anneaux demi-diaphanes et jusque-là décolorés prenaient une teinte verte d'un indicible richesse. Juste à cette même seconde, un grondement vaste, partant du dôme principal, emplit l'espace par une série de vibrations balancées, et toutes ces pâleurs immobiles qui étageaient jusqu'à perte de vue les places de la ville trépassées prirent vie. Une vie verte, d'une intensité crue et violente, dans laquelle les lignes précédemment noires, marquant les jointures des pierres, traçaient en prenant une teinte écarlate de longs zigzags de feu. C'était superbe, mais horrible. Et ces grandeurs sinistres, assombrissant et réchauffant leurs horizons sans limite, submergeaient la pensée dans une mer d'épouvantement. Et Paul lui disait « Pressez le pas, courez, fuyez votre mort qui va sonner, quelle heure avez-vous ? Midi, moi, une minute, courez, courez, après votre vie !» Ils courèrent, le temps chancelant, baignés de cette sueur glacée, que la fièvre fait ruisseler sur le corps brûlant. Ils étaient au milieu de la place centrale, quand la cloche de cristal ébranlée jeta le premier coup de la 24e heure. L'oiseau noir battit des ailes et lança dans les airs un triomphant « Coucou !» Du haut en bas de la grande église, les fenêtres ouvertes laissèrent passer des lueurs de fournaises qui semblèrent embraser de proche en proche l'air tout entier, tandis que le vert foncé des murailles et des colonnes se quadrillait de lignes de feu. Alors les jeunes filles du péristyle se tordirent en criant sous la griffe des tigres, les statues prirent des poses lascives sur leurs pieds piédestaux illuminés. Le sombre et le brillant, la nuit et le jour, le gracieux et le terrible étaient mêlés là-dedans et confondus en infernale promiscuité. Ce n'était plus même un rêve, ni un cauchemar, ni une hallucination. C'était la débauche de toutes ces choses réunies, leur bataille et leur tempête. et la cloche de cristal continuait de sonner. Et après chaque coup, l'oiseau mort jetait son cri, qui allait grandissant à mesure que l'espace plus ardent couvrait de lueurs plus étranges toutes ces architectures prodigieuses où le feu servait de ciment à des blocs d'émeraude. Au 12e coup, le paquet de flammes sculptées qui était dans la coupe terminale au sommet du dôme s'alluma, soufflé et attisé par l'oiseau noir avec le vent de ses ailes. Toutes les portes des mausolées s'ouvrirent. Nos compagnons, courant à perdre haleine, ne savaient pas où sortir de cette place entourée d'issues uniformes. Et Polly, Bird, affolés par la terreur, leur criait toujours « Courez, allez, hâtez-vous, hâtez-vous !» sans songer à leur donner les indications nécessaires. Ils tournaient à toute vitesse, épuisés déjà et perdant haleine dans le cercle fatal, ne sachant pas qu'ils avançaient plus et foulant 10 fois de suite la même trace circulaire. « Par la voix du Noctillon !» cria enfin Polly. « La porte est au bout, courez par l'enfer et le ciel, votre vie ne tient plus qu'à un fil !» Ils se précipitèrent aussitôt dans l'un des 6 grands squares formant la rosace, celui qui était marqué par une statue de chauve-souris. Les 4 autres, dont nous n'avons pas parlé, avaient pour signe une araignée, un vautour, un chat et une sangsue. Je dois dire que Ned Burton, et surtout Great Jack, avaient bonne envie de lâcher le cercueil de fer qui retardait la rapidité de leur course, mais comment sortir sans lui de cet abominable labyrinthe? On n'apercevait aucune issue. Et cependant, la cloche de cristal arrivait à tinter ses derniers coups. De toutes parts, le mouvement succédait à l'immobilité, le bruit au silence. Par toutes les portes ouvertes, on voyait l'intérieur des mausolées dont les habitants se dressaient hors de leur conque et faisaient leur toilette. Quelques-uns même déjà apparaissaient sur les seuils, des hommes de haute taille, mais pour la plupart efféminés, des femmes au contraire à la stature puissante et hardie, tous femmes et hommes pétris d'une matière verte jaspée de rouge sombre, avec des yeux jaunes rayonnants et des lèvres qui pétillaient en brûlant comme les charbons sous le soufflet de forge. Sur leurs épaules, de longs voiles de pourpre flottaient, et il était facile de voir aux lueurs toujours plus violentes qui incendiaient l'espace que chacun d'eux avait au côté gauche de la poitrine, à l'endroit du cœur, une piqûre saignante où la gouttelette de vermillon tremblait. N'étaient-ils pas encore bien éveillés ou quelques protections couvraient-elles nos fugitifs? Aucune de ces effrayantes créatures ne les avait encore aperçues, quoique rien n'abritât leur course. Polly Bird n'osait plus parler dans le cercueil de peur d'attirer l'attention. Notre Anna recommandait son âme à Dieu parce qu'elle sentait bien que ses pauvres gens embarrassés allaient lui refuser service. Ned n'était pas de bonne humeur. Great Jack, quoique anglais du centre, avait la chair de poule. Et Mary Bones lui-même trouvait le temps long. « Courage !» dit tout bas Polly Bird qui les voyait faiblir. « Un dernier effort. Nous sommes tout près de la tombe du concierge. Il suffira de lui jeter dans les yeux un peu de sang de mon défunt séducteur et nous passerons. Courage !» Mais à l'instant où l'oiseau noir perchait maintenant, les ailes déployées au milieu des flammes du bol de ponche qui couronnait le grand dôme, lançait son dernier « coucou » après le dernier tintement de la cloche de cristal, un cri lointain se fit entendre, suivi d'un son de corps. Puis avec une vélocité magique, les cris gagnèrent de proche en proche, les sons de trompe aussi, à ce point qu'avant une seconde écoulée, nos fugitifs furent enveloppés dans une vaste clameur au-dessus de laquelle éclatait la voix des corps. Les cris parlaient une langue inconnue, les corps sonnaient une fanfare dont aucune parole ne saurait dire les déchirantes sonorités. En même temps, aux 4 R devant, les tambours invisibles battirent la générale et la cloche de cristal tinte le coxin.
« Oh, nous sommes à deux pas de la porte !» dit Polybird. Il crie « Sépulture violée, mort de vampire !»« Mais c'est égal, un coup de collier, nous voilà dehors !»
C'était vrai, nos fugitifs pouvaient voir déjà la haute muraille de porphyre, ceinture merveilleuse de tant de merveilles, et la voûte profonde, étroite, basse, qui seule donnait entrée dans l'immense cité. Ils avaient dû passer sous cette voûte à leur arrivée, mais ils n'en gardaient point le souvenir. Et comme ils avaient dépassé déjà les derniers mausolées, il n'y avait personne entre eux et la porte grande ouverte, au-delà de laquelle était la nuit. Mais les clameurs, les fanfares, la générale et le tocsin, mêlés à des bruits de toutes sortes, se gonflaient et montaient comme une marée d'assourdissements fracas. Et tout à coup, une innombrable cohue d'hommes, de femmes, d'animaux à quatre pattes, de reptiles, d'oiseaux uniformément verts et rouges, avec des yeux jaunes, se rua dans la grande voie par toutes les issues et l'encombra en un clin d'œil.
« À mort, concierge, fermez la porte, baissez la baisse, levez le pont, lâchez les dogues, les lions, les tigres, les crocodiles et les serpents, viol de sépulture, mort de vampire, il faut du sang, du sang, du sang !»
Il y eut quelque chose d'étonnant. Aucun mouvement ne répondit du côté de la porte aux vociférations de la cohue. Le concierge ne se montra point. La herse demeura suspendue et le pont-levis resta baissé. On ne vit ni dogue, ni tigre, ni crocodile, ni serpent. Oh, si vous voulez le permettre, je vais vous expliquer cela tout de suite. La charge si importante de concierge de la porte unique était tenue à tour de rôle pendant 24 heures par chacun des habitants de Sélène. Et c'était aujourd'hui le jour de M. Goetzi. Et comme il avait la réputation d'un vampire très exact, son prédécesseur s'était retiré du premier coup de la 24e heure. Ah, il eut tort, et je pense qu'il reçut une punition pour sa négligence. Voilà pourquoi nos fugitifs n'avaient personne pour barrer leur retraite. Mais, grand Dieu, leur position n'en était pas moins précaire. Le flot des assaillants, tumultueux et furieux, montait avec une rapidité croissante. Déjà, il débordait à droite et à gauche, quand la voix du cercueil cria « Attention, Mary Bones, prends garde à toi !» Le brave Irlandais se retourna, et l'haleine d'un grand coquin vert qui courait sur ses talons, la gueule béante, lui brûla le visage, pendant que deux chiens monstrueux sautaient pour le happer à la gorge et que divers reptiles se glissaient entre ses jambes en sifflant. Et le moment était d'autant plus critique qu'au même instant, sur les deux flancs, la foule débordait, jappant, coassant, aboyant, rugissant et criant « à mort !» tandis que nos fugitifs, excités par la voix du cercueil, prenaient décidément le mort aux dents. Mary Bond ne s'arrêta que le quart d'une seconde, mais cela suffit pour le séparer du gros de ses compagnons, qui franchirent la voûte et laissèrent tout seul dans la ville de Sélène. Elle n'eut jamais consenti volontairement à laisser même un Irlandais à la merci de si cruels ennemis. Mais Polly pressait la fuite comme une enragée, sachant le sort qui l'attendait si elle était reprise. Et nous verrons d'ailleurs qu'elle avait d'ambitieux projets en qualité d'unique héritière de M. Goetzi. Edward, Barton et Gray, Bart, obéissant à sa voix, passèrent la voûte et le pont-levis en courant comme des lièvres. Anna les suivit sans savoir qu'elle était sauvée ou du moins hors de la ville maudite. Elle se retourna seulement sur l'autre bord des douves et pour jeter un dernier regard par l'ouverture de la voûte à l'infernal et magnifique spectacle qu'un si petit nombre de mortels a été à même de contempler dans la succession des âges. Certes, tout intrépide qu'elle était par nature, Elle ne regrettait pas le redoutable qu'elle venait de vivre parmi ces fantastiques terreurs, mais de larges éblouissements restaient dans sa pensée, et suivant l'instinct de son tempérament poétique, elle gardait l'impression de ces miracles dus à une autre puissance que celle de Dieu. Le moment du réveil surtout, la minute où la sépulcrale féerie avait revêtu les violentes couleurs de l'orgie, lui laissait un souvenir vif comme une blessure. Le trou percé par la voûte dans la noire épaisseur du rempart la lui montra encore une fois. L'orgie bondissant et se roulant dans un océan de lumière verte et rouge, et par-delà les mouvements confus de la populace ivre de rage, elle revit, comme en un rêve déjà lointain, la perspective infinie des tombeaux, les dômes, les colonnades perdues en étincelants profilés. Et comme le pauvre Mary Bones était maintenant noyé au plus profond de la cohue, elle ne l'aperçut point. « Dieu soit loué, » dit-elle, « nous avons évité un grand péril. »« en avant, » répondit Polly, « nous n'en sommes pas encore à nous féliciter. Il sera temps de remercier Dieu quand nous aurons traversé la ceinture de ténèbres et que nous verrons devant nous les clochers de Semlin. » J'ai à peine besoin d'ajouter qu'en quittant la voûte, nos compagnons étaient rentrés dans la nuit qui entoure Séléné de tous côtés comme une impénétrable banlieue. Ils poursuivirent leur marche et ceux qui, par impossible, pensèrent à Mary Bones, se gardèrent bien de prononcer son nom. Nous autres, nous allons nous occuper de lui.